Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Avec quelques minutes de retard, c'est bientôt contre-histoire.
Chaque jour à la télé, j'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio, le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère. Nos parents meurent dans la galère. Sénégal, Bénékenanga, Abidjan, Fa. Olu, Teta, Congo, la Abadan. Mais Maloka, Dionya. Barana, Fananka, Dionya. Sénégal, Bénékenanga, gouvernement, Fa. Olu, Teta, Congo, la Abadan. Mais Jamana, Oribeye, Olu, Lebo. Alumaye, Baba, Segela. Alumaye, Baba, Torona.
Bonjour tout le monde et que Tikenja me pardonne. Nous retournons tout de suite en Afrique du Nord. Je reprends le masque de Charles de Gaulle lui-même. Voilà, nous en avons terminé avec l'Algérie. De quoi vais-je vous parler maintenant? Procédons par ordre. Le Maroc. Au temps de la colonisation, notre résident général servait les intérêts des colons. Des colons et du milieu des affaires, et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui possédait en sous-main la quasi-totalité du Maroc. Quand on prenait une décision, on appelait le sultan pour qu'il appose sa signature. Il disait « Oh, mais quelle bonne idée !» et il signait. En 1927, le nouveau sultan s'appelait Sidi Mohamed Ben Youssef. Il aimait beaucoup les femmes et l'argent. Il ne faisait pas de vagues. Toujours le même schéma. La débâcle de 1940 donna des idées au sultan. Et en 1942, les Américains fraîchement débarqués à Rabat en remirent une couche. Ils évoquèrent la possibilité d'un Maroc libre. La guerre d'Indochine passa là-dessus, et voilà qu'en 1952, Sidi Mohamed se mit à refuser de signer. On lui présentait un décret, il disait « Mouais, ça se discute ». Il signait pas. Le 20 août 1953, nous le déposâmes gentiment et nous le forçâmes à l'exil. Ce fut une bêtise. Nous faisions de lui un martyr pour tout son peuple. Nous lui donnions une légitimité pour gouverner. Après le départ du sultan, des attentats se multiplièrent un peu partout. Nous avions déjà sur les bras l'insurrection algérienne. On n'allait pas en plus se retrouver avec un Maroc à feu et à sang. On rappela Sidi Mohamed. On épousta Zadjellaba et le 2 mars 1956, il fit une entrée triomphale à Rabat, dans un Maroc indépendant. Avant notre arrivée, aucun sultan n'était parvenu à rassembler les tribus du Maroc. Nous avions fait tout le boulot. On y avait usé plusieurs généraux, perdu 30 000 hommes. Ce type, qui n'avait aucune prédisposition en politique, se retrouva à la tête d'un État unifié et put régner sous le nom de Mohamed V. Quelque part, nous avons été bien vengés, car son fils Hassan II prit rapidement le pouvoir et en fit baver à son peuple comme Louis XIV nous en avait fait baver. Nous étions tranquilles du côté du Maroc, on allait pouvoir se concentrer sur l'Algérie, quand le téléphone sonna à Matignon. C'étaient les Tunisiens. On comprend pas, vous accordez l'indépendance aux Marocains et à nous rien du tout. On vous prévient, si vous ne nous donnez pas la même chose, on fait tout sauter. Guy Mollet s'effondra dans son fauteuil. Que pouvait-on faire face à ce grossier chantage? La Tunisie devint indépendante le 20 mars 1956. Apparemment 3 semaines après le Maroc, mais après plus de 37 ans de lutte, par-dessus lesquels sont passés joyeusement Grégory Jarry et Ototé. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'indépendance du pays de mon grand-père, si vous permettez. Afin de garder la tête haute, Guy Mollet proposa aux Tunisiens une indépendance dans l'interdépendance. Habib Bourguiba, le leader nationaliste, le regarda bien en face.
« Mais ça va de soi, on ne va pas se fâcher pour si peu, on est des êtres humains tout de même. »
Quelque part, nous avons été bien vengés car les Tunisiens ont eu Bourguiba comme président pendant 30 ans. Et je peux vous dire qu'ils ne s'en sont pas tous plaints. Alors voilà, je mets mon grain de sel dans l'histoire de la Tunisie de mon grand-père. Durant son mandat de Premier ministre, Bourguiba met en place des réformes fondamentales pour moderniser la société. Le 26 avril 1957, par décret, il charge le ministère des Finances d'administrer le domaine privé et le domaine d'État affecté à la couronne tunisienne. Le 31 mai 1957, Bourguiba abolit les privilèges des membres de la famille royale. Les princes et princesses sont désormais égaux avec les citoyens devant la loi et passibles de peine en cas de crime et délit. le 18 juillet. Il abolit le régime des habous. Alors les habous, c'était des biens en général immobiliers qui étaient inaliénables et qui étaient dévolus à des congrégations religieuses. C'était une tradition très ancienne, très enracinée dans les mœurs. Ça ressemble énormément au privilège de la propriété qui est attribuée aux congrégations religieuses en France actuellement encore. Hein. Ce qui fait que l'Église, avec un grand E, possède des fortunes absolument honteuses, n'ayons pas peur des mots. Quand il y a tant de monde à la rue. Voilà. Alors, ces habous étaient une tradition très enracinée dans les mœurs. Des commissions régionales ont été mises en place pour appliquer la réforme et procéder à l'attribution des biens libérés. C'est une première dans les sociétés islamiques. Bourguiba, souhaitant exploiter ce patrimoine immense, constitué de milliers d'hectares de terres et de bâtiments, d'une façon moderne, pour restituer leur valeur marchande et les faire revenir dans le circuit économique. Sur le statut des femmes, Bourguiba fait campagne pour leur émancipation. Et ce qui lui vaut une opposition de la partie conservatrice de la société. À son conseiller Béji Caïd Essebsi, qui lui demande si ce projet revêt une grande importance, Bourguiba répond « Si cette réforme n'est pas réalisée maintenant, elle ne pourra peut-être plus jamais être réalisée. Et je ne suis pas sûr de pouvoir moi-même la réaliser encore dans 6 mois. » Il était à l'époque Premier ministre. En même temps, l'Union nationale des femmes de Tunisie est fondée par des femmes militantes pendant que Bourguiba œuvre à travers sa campagne à sensibiliser les citoyens tunisiens à ces nouvelles réformes révolutionnaires que sont la généralisation de l'enseignement aux filles à l'égal des garçons, l'admission des femmes à l'emploi dans les mêmes conditions que les hommes, le libre consentement au mariage et la suppression du voile. La campagne, adoptée par les jeunes, s'avère un succès. Sur le plan législatif, il met en place le Code du statut personnel, promulgué le 13 août 1956, qui réorganise la famille. La répudiation est interdite par la loi et remplacée par le divorce. La loi garantit l'interdiction de la polygamie, devenue un délit, et donne le droit à la femme de choisir librement son mari sans l'approbation du père, qui était jusque-là la tradition. L'égalité entre le père et la mère, ainsi qu'entre les enfants, est aussi inscrite dans la loi. Bourguiba met fin à l'influence des religieux sur la magistrature et instaure des cours civiles. Il crée les justices cantonales, les tribunaux de droit commun et les tribunaux de première instance. Au siège de chaque tribunal de première instance est créée une juridiction criminelle composée de 3 magistrats et de 4 jurés. Au sommet du système, la fusion de la Chambre des requêtes et du tribunal de tradition religieuse Chara laisse la place à la Cour de cassation. À contre-courant de ses voisins et homologues arabes, la priorité est donnée à l'éducation et à la santé, au détriment de l'armement. Il met en place un enseignement moderne et nomme l'écrivain Mahmoud Messadi ministre de l'Éducation nationale. Celui-ci met fin au double cursus d'enseignement coranique et occidental. L'école devient publique et gratuite. Et le 25 juillet 1957, Bourguiba devient président de la République tunisienne. En février 61, il appelle ses concitoyens à ne pas observer le jeûne du Ramadan pour mieux affronter et combattre le sous-développement. En mars 64, en plein Ramadan, il enfonce le clou en buvant ostensiblement, à la télévision, un verre de jus d'orange en pleine journée. Son non-respect du jeûne et un discours sur le prophète, publié par un journal libanais, entraînent de vives critiques dans le monde musulman, allant jusqu'à accusation d'apostasie en 1974. Cette année 1961, Ahmed Ben Salah, étoile montante du gouvernement et partisan d'une ligne socialiste, est protégé des attaques des ministres par Bourguiba. « Je suis personnellement responsable du plan que je couvre de mon autorité. Désormais, le plan sera l'œuvre du parti néo-destour, qu'il avait contribué à créer. » Longtemps avant. En juin 1962, Bourguiba précise « Quant à ceux qui s'érigent en défenseurs de la liberté individuelle, du secteur privé et de la libre entreprise, nous disons que le plan sert l'intérêt de tous. Dans notre situation, seule l'action collective est efficace. » Oui, ça c'est une citation qui doit résonner dans le temps. Le 6 février 1963, Bourguiba proclame que la bataille contre le sous-développement est une lutte pour la dignité de l'homme et la gloire de la patrie. Dans ces conditions, la restriction des libertés et des privilèges de la propriété s'impose lorsqu'il convient d'en faire un usage plus productif et plus rentable pour la collectivité. Il s'attaque au secteur commercial. Les circuits traditionnels sont remplacés par un réseau centralisé d'offices d'État et de coopératives. Le 28 avril 1964, Bourguiba demande l'ouverture de négociations sur les terres agricoles détenues par les étrangers. En réponse directe, le 2 mai, la France suspend son aide financière. En retour, le 12 mai, Bourguiba promulgue la nationalisation des terres. Ces dernières, devenues domaines de l'État, comptent parmi les plus productives du pays. Mais les paysans renâclent à s'intégrer à un tel système. En effet, la bureaucratie affaiblit l'idéologie gouvernementale. Tandis que certaines unités restent en friche, d'autres se voient dotées de plus de travailleurs qu'il n'est nécessaire. Le 30 septembre 1964, la dévaluation du dinar de 25% s'impose à la suite du premier plan quinquennal. La stratégie collectiviste, pourtant, s'affirme par l'établissement de trois secteurs économiques distincts, public, privé et coopératif. Le néo-destour est rebaptisé à cette occasion Parti socialiste destourien, PSD, et un comité central incluant ministres, responsables régionaux du parti et certains hauts fonctionnaires est créé sur le modèle des partis communistes. Les membres du bureau politique ne sont plus élus, mais choisis par le président au sein du comité central. Dès la fin du congrès, pour contrôler davantage l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, unique syndicat du pays, le président décide de créer dans toutes les entreprises ses propres cellules professionnelles pour faire concurrence aux cellules syndicales. Le parti présidentiel achève ainsi sa prépondérance dans le pays. Les premiers incidents arrivent. Ils se produisent le 15 septembre à Msaken. La population manifeste contre l'obligation pour 147 petits agriculteurs d'adhérer aux nouvelles coopératives d'arbres fruitiers qui remplaceraient leurs 80 000 pieds d'olivier. On procède alors à des dizaines d'arrestations et à la dissolution des cellules du parti qui soutenaient les agriculteurs. Durant cette période, Bourguiba se distingue aussi de ses homologues arabes en matière et en manière de politique étrangère. 20 ans avant le président égyptien Anwar el-Sadat, il préconise la normalisation des rapports avec Israël. Lors d'une tournée au Proche-Orient, bravant Gamal Abdel Nasser, il rappelle dans un discours prononcé à Jéricho le 3 mars 1965 que la politique du tout ou rien n'avait mené en Palestine qu'à la défaite. Il propose par là même à l'ONU la création d'une fédération entre les États arabes de la région et Israël. En mai de la même année, réconforté par le soutien de son opinion publique, il n'hésite pas à rompre avec la Ligue arabe.
Pilhados e saqueados por anos e anos de colonialismo, povos sugados e explorados, alvos de novos imperialismos, países ricos afortunados. Como o sangue e a riqueza dos oprimidos.
O Becó, maluca se Baba defensor lá, maloura. Olha o baba sene. Olha o maie baba torola. J'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère. Nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio. Le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère. Nos parents meurent dans la galère. Sénégal, Bénin, Abidjan, Fa, Olu, Teta, Congo, la Abadan, mais Maloka, Dionya, Barana, Fananka, Dionya. Sénégal, Bénin, gouvernement, Fa, Olu, Teta, Congo, la Abadan, mais Jamana, Oribeye, Olu, Lebo, Alumaye, Baba, Segela, Alumaye, Baba, Torona.
Explorados, pilhados e subjugados, levaram as nossas melhores riquezas. A pobreza que hoje é o nosso legado é o que lhe sobra sobre a mesa.
Babani Congo.
Babani Congo.
Babani Congo.
Le 14 mars 1967, Bourguiba est victime d'une crise cardiaque. Son environnement s'apprête dès lors à sa succession et se déchire allègrement tandis que Bourguiba s'absente souvent longuement pour des soins à l'étranger. Complots, tentatives d'assassinat et purges se succèdent. Le 25 janvier 1969, sommé de céder à la coopérative toutes ses terres et ses vergers, la population de Werdanin se révolte et tente de s'opposer aux tracteurs. Les forces de l'ordre ouvrent le feu et font 2 morts et des dizaines de blessés. Un peu partout, d'autres incidents éclatent pour les mêmes raisons, refus de la collectivisation autoritaire. Le 3 août, Ben Salah, ministre de l'Agriculture, présente à Bourguiba un projet de décret-loi portant généralisation du système coopératif dans l'agriculture. Mais Bourguiba, sur le conseil de certains ministres, refuse de le paraffer. Le lendemain, il annonce « On en arrive à poser le problème des limites du système coopératif. Il est valable jusqu'à un certain degré, au-delà duquel l'équilibre est rompu. » Le 8 juin 1970, Bourguiba déclare au peuple tunisien « Constitutionnellement, le premier et unique responsable, c'est moi, Habib Bourguiba, parce que je suis homme, donc sujet à l'erreur. Je me suis trompé. Je le dis en toute modestie, je demande pardon au peuple et surtout aux militants qui ont souffert. Je sais qu'ils sont convaincus de ma bonne foi, mais j'ai été abusé. » Et l'année suivante, il déclare « Il est évident que tant que je serai de ce monde, je serai maintenu à la tête de l'État. » Et autour de lui, les autres chefs d'État s'activent. En 73, Houari Boumediene, l'Algérien, lui propose la réunion de l'Algérie et de la Tunisie dans le but d'une unification du Maghreb. Bourguiba refuse. En 74, c'est Kadhafi qui évoque lui aussi l'association de la Tunisie à la Libye, ce qui n'aura pas de suite non plus, même si Bourguiba y était plus favorable. Constitutionnellement, ça ne marchait pas. En avril 81, Bourguiba s'affirme en faveur du pluralisme politique. Le degré de maturité atteint par le peuple tunisien, les aspirations des jeunes et l'intérêt qu'il y a à faire participer tous les Tunisiens, quelles que soient leurs opinions, à l'intérieur ou à l'extérieur du parti, dans la prise de décision, nous invite à dire que nous ne voyons pas d'objection à ce que des organisations nationales, politiques ou sociales voient le jour. Mais la période électorale confuse repousse alors cette proposition. Vassila Bourguiba, son épouse, déclare dans Jeune Afrique le 28 février 1982, avec la Constitution telle qu'elle est, la continuité est artificielle et le risque d'un rejet populaire n'est pas exclu. Le peuple tunisien respecte Bourguiba, mais la véritable continuité sera assurée lorsque l'œuvre de Bourguiba sera poursuivie démocratiquement par un président élu. Habib Achour, le syndicaliste, confie aussi à Jeune Afrique le 11 août 82 « Je suis pour la révision de la Constitution de manière que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter librement. » Et Bourguiba légalise 2 nouveaux partis politiques le 19 novembre 83, le Mouvement des démocrates socialistes et le Parti de l'Unité populaire, issu d'alliés de l'opposition de Ben Salah. Mais de dépression présidentielle en hospitalisation à l'étranger, les crises se succèdent, favorisant la montée de l'islamisme et alimentant la paranoïa du président, qui s'assure le soutien du général Zine El Abidine Ben Ali, nommé ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre en octobre 87. Dans la nuit du 6 novembre 87, un groupe de 7 médecins tunisiens signe un rapport médical qui certifie l'incapacité mentale du président. Ben Ali le dépose en s'appuyant sur l'article 57 de la Constitution de 1959 et prend en main le pays. Dans leur livre « Notre ami Ben Ali », les journalistes Nicolas Beau et Jean-Pierre Tucois racontent en ces termes la prise de pouvoir par Ben Ali. Ben Ali sommes les représentants de la faculté d'établir un certificat médical d'incapacité du président. « Je n'ai pas vu Bourguiba depuis 2 ans », proteste un médecin. « Ça fait rien, signe !» tranche Ben Ali. Bourguiba est évacué du palais de Carthage quelques jours plus tard pour Mornague, près de Tunis, où il est assigné à résidence avant d'être transféré le 22 octobre 1988 à Monastir, où il vit avec le soutien d'une équipe médicale. Souffrant de troubles de l'élocution et de l'attention, Bourguiba connaît de graves problèmes de santé à la fin des années 90. Il reçoit parfois quelques visiteurs étrangers, et même le président Ben Ali. Le 5 mars 2000, Bourguiba est hospitalisé en urgence à l'hôpital militaire de Tunis à la suite d'une pneumopathie. Son état étant jugé critique, il subit une ponction pleurale aux soins intensifs. Sa santé s'améliore, il quitte l'hôpital le 13 mars pour regagner sa résidence. Il y meurt le 6 avril.
Quem pode poder, poder até mais e contemplar-te de quem está a sofrer. Quem pode poder, poder até mais e contemplar-te de quem está a sofrer. Boemas pikni, takabep soniki, só migalha pa sobreviver. Boemas pikni, takabep soniki, o anton smola pa aliviar consciência de quem na fartura. Quem pode fazer, nada ele tá fazer. Se vida tá morto, mundo pode acabar. Quem pode, poder,
te bebe son niquim, son miganha pra sobreviver. Sou mais pequenin, ta que bebe son niquim, o antons mala pra aliviar consciência de quem tá vivendo na fartura. Um tem boca tem, boêmio caiu, cada um nasceu e Deus pra ninguém.
Um tem boca tem,
boêmio caê,
boêmio caê.
Cada um nasceu,
cada um nasceu,
e Deus pra ninguém.
À la bande dessinée de Grégory Jarry et Ototé. Et retrouvons le général de Gaulle. Le Maroc et la Tunisie s'étaient réglés. On allait pouvoir se concentrer sur l'Algérie. Quand le téléphone sonna à Matignon, c'était les Malgaches. Alors comme ça, vous donnez leur indépendance aux Marocains et aux Tunisiens et à nous rien du tout? On vous prévient. Si vous ne faites pas pareil avec nous, on remet ça, comme en 47. Guy Mollet répondit, « Vous voulez dire comme en 40 ?»« Non, comme en 47, relis tes livres d'histoire. » Les émeutes de Madagascar en 1947, on était loin de s'y attendre. Les Malgaches étaient toujours prêts à rendre service quand on leur demandait une cigarette dans la rue. Ils se dépêchaient d'aller ramasser le tabac dans un champ, de le faire sécher et ils roulaient votre cigarette d'une main et vous l'allumaient de l'autre. Ces mêmes gens souriants s'étaient pris à rêver d'indépendance quand la guerre d'Indochine avait éclaté. On avait pris pourtant le soin de monter les tribus les unes contre les autres. On avait interdit les partis indépendantistes. On maintenait la population dans un niveau d'inculture propice au travail bien fait. Mais on ne savait pas que les Malgaches avaient le goût des sociétés secrètes, héritées des pirates qui faisaient jadis escale sur leur île. Les Malgaches créaient des sociétés secrètes pour ramasser des coquillages, pour danser le kinetsa-netsa ou pour mener des guerres d'indépendance. Celle-là nous avait pris de court. Le 29 mars 1947, des centaines d'insurgés s'en prirent aux intérêts des colons, attaquant des dépôts d'armes, détruisant les voies de chemin de fer. Nous envoyâmes par mer nos tirailleurs algériens et marocains. Ils ne s'en sortirent pas trop mal, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts. Les Malgaches se calmèrent, retournèrent compter les coquillages et danser le kinetsa-netsa. Et une vignette vous montre de quelle façon ils comptaient les coquillages. On voit, il y en a qui dansaient et il y en a d'autres qui écrivaient au sol, avec des cailloux et des coquillages, « Français pourri ». Mais je trouve que l'évocation des malheurs de 1947 sont un petit peu abrégées. Alors, je vous remettrai un grain de sel quand j'aurai fini de le préparer. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, on va passer à la suite. À peine avions-nous raccroché que le téléphone sonna de rechef et pas seulement à Matignon. On sonnait aux affaires étrangères, à l'intérieur, au budget, à la culture, au sport. Ça sonnait partout à la fois. C'étaient les Africains de nos 12 colonies d'Afrique noire. Vous discutez d'indépendance avec les Malgaches et à nous, vous ne proposez rien du tout ?
Guy Mollet répondit « On y travaille, soyez patient. »
« Faites vite, sans quoi on vous tue. »
Les Africains et les Malgaches, on pouvait n'en faire qu'une seule bouchée, malgré la guerre d'Algérie. Mais je l'ai dit, les temps changeaient, les droits de l'homme étaient à la mode, et nos élites étaient mûres pour décoloniser. Trois questions restaient en suspens. Comment allaient réagir les Français depuis le temps qu'on leur disait que l'Empire, c'était la grandeur de la France ? Comment décoloniser tout en gardant notre dignité ? Pense Poutine. Comment conserver nos intérêts économiques, géostratégiques et le petit frisson qui accompagne la domination des peuples sous-développés ?
Pour ce qui était de décoloniser les esprits, on se servit de Raymond Cartier, un journaliste qui publiait dans Paris Match. Cet imbécile qui jadis défendait les droits de l'homme blanc à rester en Afrique.
Ça, c'est la citation intégrale et authentique de Raymond Cartier. Cet imbécile fit complète volte-face, comme il arrive souvent dans ce métier. Il regrettait à présent qu'on eût construit un hôpital à Lomé plutôt qu'à Nevers. Et se lamentait qu'il faudrait bientôt payer des allocations familiales aux polygames.
Les sondages indiquaient que son influence faisait pencher l'opinion en faveur de la décolonisation. Raymond Cartier se piquait de servir une noble cause et de braver de puissants intérêts. En réalité, il effectua à la place du gouvernement et en un temps record la conversion des Français. Nous l'observions d'un œil discret, écartant discrètement ses ennemis et facilitant son ascension.
Sans protection, ce genre d'individu serait retourné au caniveau.
Ensuite, il suffisait de donner du mou. Guy Mollet fit d'abord voter une loi cadre qui confiait le pouvoir local aux indigènes. Ensuite, en même temps que la Ve République, je créais la communauté française, qui permettait aux États de se gouverner eux-mêmes et démocratiquement, avec le soutien financier de la France. La Guinée de Sékou Touré nous fit un bras d'honneur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté plutôt que la richesse dans l'esclavage.
Fallait pas me le dire deux fois. Nous donnâmes son indépendance à la Guinée le 2 octobre 1958.
Alors, sur la Guinée, là aussi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec Grégory Jarry. Et je vous raconterai l'aventure de Sékou Touré une prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois, mais j'y tiens, je vous le raconterai. Même si mes amis guinéens ne sont pas de mon avis actuellement. Il y a quand même une raison pour laquelle Myriam Makeba et son mari Stokely Carmichael se sont installés en Guinée. Donc, moi, je crois que Sékou Touré était un grand bonhomme. Le malheur, c'est que De Gaulle, avec l'aide d'un certain Jacques Foccart, De Gaulle a détruit Sékou Touré. Je vous raconterai ça. Il a bousillé son système économique en inondant la Guinée avec de la fausse monnaie. Ça a fait flamber les prix et évidemment ça a déclenché des révoltes. Et les révoltes, Sékou Touré les a jugulées de la mauvaise manière. Etc, etc. Bon, faut que je finisse la BD de Grégory parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais je reviendrai au cas de Sékou Touré, qui est un cas tout à fait dramatique et qui mérite les rectifications que j'y apporterai avec l'aide de quelques contemporains.
Donc, De Gaulle reprend la parole, je coupais le robinet des aides financières, adieu la Guinée. Ça commençait à mordre à l'hameçon. Léopold Sédar Senghor poussa le Sénégal à s'associer au Soudan français dans le cadre d'une fédération du Mali qui se retira de la communauté française en avril 1960. Juste après, le Sénégal se détacha du Soudan, qui conserva le nom de Mali, et les deux pays proclamèrent leur indépendance. Ce que nous leur avions accordé fut vécu comme une humiliation par les autres colonies. Elles me demandèrent gentiment si elles pouvaient claquer la porte de la communauté française. Je répondis qu'elle était grande ouverte. Ainsi, en 1960, Madagascar et nos colonies d'Afrique accédaient à l'indépendance. Puis vint le tour des Comores en 1975, de la République de Djibouti en 77. Ils changèrent les noms hérités de la colonisation, se choisirent un joli drapeau. Certains organisèrent des élections démocratiques, d'autres se virent confisquer le pouvoir par l'armée. Nous ne conservâmes que le strict minimum, 10 tomes d'hommes, pour aller passer nos vacances dans les mers chaudes
et pour mener nos essais nucléaires.
Nous étions redevenus le pays des droits de l'homme. Nous pouvions sans rougir répandre la francophonie partout sur la planète. Peu à peu, les nouvelles générations se désintéressèrent de notre passé colonial et elles mirent les immigrés qui ne voulaient pas s'intégrer dans des charters pour les renvoyer chez eux. Et maintenant, on voit des vignettes, les vignettes terminales de cette bande dessinée. On voit deux personnages dont la silhouette se ressemble beaucoup. L'âge les a arrondis. Ils sont assis sur un banc, on les voit de dos. Alors, il y en a un qui est habillé en clair et il a un képi. À mon avis, c'est De Gaulle, qui avait toujours son uniforme beige de général. Et puis, à côté, quelqu'un que vous allez peut-être identifier. Il est un peu arrondi aussi, mais il n'a pas de képi. Il a un chapeau à large bord, comme le promeneur du Champ de Mars, qui se promenait avec un chapeau à large bord et un long manteau. Et ces deux personnages discutent. Alors, celui qui a le chapeau à large bord demande « Alors, t'en es où ?» Et De Gaulle répond « Je viens de décoloniser. » Tu leur as parlé de faux cœur. Je viens de décoloniser, point. J'ai terminé en leur disant qu'on était redevenu le pays des droits de l'homme. Il faut leur parler de faux cœur. Vas-y, toi. Moi, c'est pas mon boulot. J'ai décolonisé. Je vous présente François Mitterrand, c'est aussi un spécialiste du sujet qui nous occupe. À la fin de mon exposé, je n'ai pas répondu à cette question cruciale. Comment conserver nos intérêts économiques, géostratégiques et le petit frisson qui accompagne la domination des peuples sous-développés? Pour y répondre, François Mitterrand va vous expliquer ce qu'il convient désormais d'appeler... On n'a pas le temps d'aller boire un verre avant. Vite fait alors. Et on voit nos deux compères qui s'en vont boire un coup avant de vous raconter Focard et la France-Afrique. Alors ça, c'est pour la semaine prochaine.
Payé, pago, payé, pago, payé. Pago. Depuis où les équipes passent?
Il faut payer, payer, payer. Il faut payer toute la journée. Il faut payer, payer, payer. Il faut payer toute l'année.
Devine
non d'agon pas qui pointe non d'air. Eu devi non d'agon pas qui pointe non d'air. Devo non d'agon pas qui pointe non d'air. Eu devi non d'agon pas qui pointe non d'air. Você só me deu 10, quer receber 100. Isso é conta que ninguém, isso é consciência faz. Pensando bem, até já paguei a mais. E se você quer saber, fica difícil dizer quem agora deve a quem. Devi não nego, pague quanto não der. Devi não nego, pague quanto não der. Eu devi não nego, pague quanto não der. Devi não nego, pague quanto não der. Devo ir lhe visitar pra comer sua galinha. Devo lhe agradecer pela sua visitinha. E você deve se preparar pra deitado me esperar outra novidade minha. Devo não nego, pague quanto não der. Eu devo não nego, pague quanto não der. Devo não nego, pague quanto não der. Devo não nego, pague quanto não der.
Devi, devi, acorai. Devi, o que ninguém faz. Devi, devi, acorai. Mas pague, mas que porra.
Je me paye pas ta tête, mais ami, écoute-moi. Il faudrait que tu me prêtes la somme que je te dois pour pouvoir payer ma dette d'avant que le terme échoue. Après, ce sera la fête à mon terme, mon restaurant.
Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa do fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu lhe digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia. Deve não neve,
viu ninguém passa.
Eu deve não neve,
viu ninguém passa.
Eu deve não neve,
viu ninguém passa.
Eu deve não neve,
viu ninguém passa.
Deve não neve,
para que passa que por aí passa.
Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa de um fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu lhe digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia. Deve não nego, pague quanto não der. Eu deve não nego, pague quanto não der. Deve não nego, pague quanto não der. Eu deve não nego, pague quanto não der.
Eu peiei, peiei, peiei.
Pago, pago, pagarás, pago, pago, paurinhas, pago, lago, que belgas, pago, lago, que belgas.
Pago, pago, paurinhas, pago, pago, pagarás, pago, pago, pas, pagar, de país, é da saga.
Te pagar, paga espaço, deixa estar. Te paga espaço, de cadeia, calma, pagar.
Te paga espaço, ter, pagar, deixa, esto, paga espaço, te paga espaço, ter, pagar, calpas, pagar.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez deviné que je vous avais fait un direct en direct, un vrai direct, et avec beaucoup d'émotion de retrouver ce mode d'expression qui est quand même le plus stressant, mais le plus émouvant, c'est sûr. Alors je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, et prenez soin de vous.